Question d'islam par Ghalib Benchir. Aujourd'hui, nous parlons davantage des politiques publiques qui visent le fait religieux islamique en France avec la chercheuse, je féminise la profession, Fatima Kemilat. Bonjour.
Bonjour.
Bonjour et merci de nous faire l'amitié de venir. Vous enseignez à l'Université Paris-Est Créteil. Vous êtes chercheuse en sciences politiques, c'est votre domaine de recherche et d'études. Et vous vous intéressez aux représentations de l'islam en France. On est en plein débat de ces questions-là. Et puis récemment, vous avez publié une étude sur, moi je l'appellerais plutôt des provocations, mais vous, vous parlez de construction de problèmes. Alors ces provocations au pluriel sont les prières de rue, la burqa ou le niqab, les mots sont entrés dans le vocabulaire français, plus les histoires du burkini, nous verrons tout ça ensemble. Et vous, vous étudiez ça avec la froideur d'esprit de l'universitaire et de la politiste que vous êtes. Donc nous essayons à travers vous de comprendre avec discernement, distanciation, calme et sérénité ces faits problématiques finalement. D'abord, qu'est-ce qui vous a intéressé à étudier ces choses-là? Qu'est-ce qui vous a poussé à en faire votre objet de recherche?
C'est une très très bonne question et quand on fait une thèse, peu importe d'ailleurs en quel domaine de sciences sociales, on est toujours amené à réfléchir à la raison qui nous a poussé à étudier les objets de recherche qui vont nous passionner durant les prochaines années de nos vies. Moi je dirais que l'islam en France est un objet à chaud. C'est un objet chaud, c'est ce qui est construit comme étant une question sensible. Et ça m'a toujours intéressé d'essayer d'appliquer, comme vous le disiez très bien, l'œil froid de la science sociale, des sciences sociales, à un objet chaud et quelque part essayer de désexceptionnaliser l'objet islam de France. Expliquer qu'on n'est pas obligé de faire capituler les outils de la sociologie ordinaire devant ce qui serait considéré comme étant extraordinaire, qui serait l'islam et les musulmans en France.
Oui, l'islam fait partie, au moins avec son initiale, des quatre I qui hystérisent le débat, immigration, insécurité, identité et islam. Et vous voulez, comme citoyenne, mais aussi comme académicienne, j'ai envie de dire, ou future académicienne, à ne pas trop hystériser le débat et le dépassionner.
Alors, hystériser, c'est votre mot, pas le mien, parce qu'on connaît quand même les origines sexistes du mot hystériser. Alors, moi, je dirais qu'effectivement, c'est un débat qui déchaîne un certain nombre de passions, les passions médiatiques, et c'est surtout un objet de politique publique, un objet qui fait que régulièrement, à l'agenda politique, est inscrit la question des musulmans, de l'islam, de la visibilité, et vous le disiez très bien tout à l'heure, la question du voile sous toutes ces déclinaisons.
Oui, mais il incombe à la puissance publique, au pouvoir public de régler, d'amener de l'ordre s'il y a des problèmes d'ordre. Il incombe aussi aux hiérarques, aux responsables musulmans de faire en sorte que cet objet, ce fait qui relève de l'actualité brûlante, au moins connaisse une certaine tiédeur, si ce n'est que ça refroidisse.
Alors, c'est très intéressant parce que ça fait partie aussi d'une partie de mes recherches, qui est la question de quelle est finalement la mission de ce que vous avez appelé les hiérarques, ce qu'ils sont considérés comme les représentants légitimes ou pas de l'islam de France dans finalement l'organisation du culte. Et ça, c'est assez typique finalement du fonctionnement de la France, de l'État français, qui est la recherche de corps intermédiaires pour accéder à différents secteurs de sa population. Donc, ça peut être la question syndicale. Ça peut être la question de la représentation des familles en France, donc les partenaires sociaux. Et puis, il y a aussi la question de l'islam. L'État est en perpétuelle recherche d'interlocuteurs légitimes en matière d'islam de France, et en particulier quand surviennent un certain nombre de controverses. Donc ça, c'est une tendance de fond qu'on observe depuis 1989. La volonté de l'État, cette espèce de serpent de mer, finalement, de l'action publique française, qui est la recherche d'un interlocuteur légitime. Alors, j'ai dit 1989, 1789. Mais si on prenait une posture un peu plus socio-historique, on verrait que... D'ailleurs, il y a un très très bon ouvrage qui est sorti d'une jeune femme qui s'appelle Wasila et qui travaille sur la question de l'invention du culte musulman en période coloniale en Algérie. Donc cette tendance à l'institutionnalisation du culte musulman, à la recherche d'interlocuteurs, c'est quelque chose qui s'inscrit sur le temps long et qu'on a retrouvé aussi dans d'autres cultes, comme le culte juif avec le concordat de 1807, si je ne m'abuse, et puis avant le concordat 1801 avec tout ce qui est culte protestant et puis la question du catholicisme.
Et vous ne pensez pas, Fatima Kemilat, que ce problème est récurrent, vous avez même parlé de serpent de mer, est dû au fait qui est induit par le paradoxe de la loi de 1905, la loi de séparation du 9 décembre 1905. L'État n'a pas à s'immiscer dans l'organisation d'un culte. Au même moment, il est légitimement aussi fondé de trouver des interlocuteurs sérieux, compétents, et ayant à cœur de régler les problèmes quand ils surgissent, a fortiori en temps de controverse, et on passera en revue les différentes controverses dans un moment.
Ce qui est intéressant dans ce que vous venez de dire, c'est quand même de rappeler le cadre juridique, en fait, de la laïcité en France. Donc, il y a la laïcité philosophique, et puis on a de très très bons auteurs. Hein. Il y a Henri Penuel-Luis qui écrit sur cette question, et puis d'autres, mais on a aussi toute la question de, finalement, quand on parle de laïcité, de quoi parle-t-on? La loi du 9 décembre 1905, c'est pas une loi de séparation d'une entité spirituelle, qui serait l'Église avec un grand E, et une entité qui serait temporelle, qui serait l'État. La loi de 1905, c'est la séparation de deux autorités temporelles. À ce moment-là, l'Église a prétention à régir la vie de la cité. Et donc, on a tendance à oublier quand même que cette loi, elle vise d'une part à éviter finalement cette propension à l'ingérence de l'État dans les affaires du culte, mais aussi à éviter que les affaires religieuses, eh bien, mettent et la main mise sur tout ce qui est autorité temporelle. Et pourquoi est-ce que c'est d'autant plus intéressant? C'est qu'on a tendance aussi, en ce qui concerne la laïcité, à confondre les moyens et les finalités. Dans les finalités, il y a deux éléments très simples qu'on retrouve d'ailleurs dans la devise républicaine, qui sont la question de l'égalité entre les cultes et la liberté. La liberté religieuse, mais entendue dans un sens très large en réalité, qui est la liberté individuelle, la liberté de conscience, et la liberté collective, la liberté de culte, d'exercer sa religion. Et pourquoi je dis qu'on a tendance à un petit peu tout confondre? Parce que pour atteindre ces deux objectifs que sont l'égalité et la liberté, il y a deux moyens principaux, ou tels qu'ils ont été pensés, ou en tout cas tels que Jean Bobéro et Micheline Milot le disent dans le livre « Laïcité sans frontières ». Ces deux moyens, c'est la séparation et la neutralité. Séparation de l'État et des cultes et la neutralité de l'État vis-à-vis de tous les cultes. Aujourd'hui, on est dans une lecture qui a vraiment changé où on considère que finalement, les moyens de garantir l'égalité et la liberté, eh bien, sont devenus la fin en elle-même. Et on passe, et dans les médias et également certains des acteurs politiques ont tendance à penser que la neutralité aujourd'hui, elle doit s'appliquer aux usagers du service public, à tous les citoyens et à toutes les citoyennes, et que la séparation, c'est aussi une séparation qui doit se faire de manière territoriale, avec d'un côté un espace privé où s'exercerait le religieux de manière légitime, et de l'autre côté un espace public qui devrait être sanctuarisé, si vous me permettez le jeu de mots, et qui devrait devenir simplement un espace profane et dans lequel le religieux n'aurait pas vraiment droit au chapitre. Je pense que ces confusions-là font qu'aujourd'hui c'est très compliqué de savoir de quoi on parle quand on parle de laïcité.
Ce qui sous-entend que le concept même de la laïcité, à la fois comme un principe juridique, vous avez évoqué la laïcité philosophique, ce n'est pas un concept autosuffisant. Quand on dit laïcité, on ne sait pas à quoi ça renvoie. Vous avez évoqué deux auteurs connus de la laïcité, à la fois Henri Penuel-Luis et Jean Bobéro. Ils ne se mettent pas d'accord déjà entre eux, c'est dire l'effervescence du débat. Je ne parle plus d'hystérie du débat, maintenant que j'ai appris la leçon. C'est en débat, bien entendu, c'est plus qu'un peu l'actualité brûlante. Comment amener un peu d'ordre dans le fatras idéal dans tout ça? Certes, vous avez évoqué la liberté individuelle, elle y est, elle est consacrée, et la liberté collective de l'exercice du culte dans le cadre de la loi ou de la législation en vigueur, pour peu qu'il n'y ait pas une atteinte à l'ordre public aussi.
Tout à fait.
Que je sache, le préfet de police, par exemple, n'interdira pas lors de la Semaine Sainte une procession fluviale des catholiques. Or, et ma question est là, quand il s'agit de prières de rue systématiques tous les vendredis sans avoir eu le préalable ou l'autorisation des autorités préfectorales, c'est perçu comme peut-être pas les riverains, parce que dans votre étude vous dites qu'eux n'étaient pas dérangés, mais par le reste du corps national comme étant une provocation récurrente.
Alors, tout à fait, ce qui est intéressant, c'est que vous rappelez bien qu'en France, il y a eu la tentation à un moment donné, quand même, d'interdire les processions.
À travers l'histoire, oui.
Exactement, durant le XXe siècle. Et on s'aperçoit que finalement, la jurisprudence, et notamment celle du Conseil d'État, elle est très cohérente en ce sens. Elle a toujours eu la même position qui a été de dire, on ne peut pas interdire les manifestations à caractère traditionnel, et ça inclut les processions. Donc ça, c'est la jurisprudence, l'arrêt Menetto 1938, et c'est quelque chose qui est aussi utilisé, et les juristes se sont posé la question, est-ce qu'on l'applique ou pas à la question des prières de rue? Est-ce qu'on peut considérer qu'une prière qui est faite sur la voie publique peut avoir un caractère traditionnel dans le cas du fait religieux musulman? Alors en 2010, au moment où la controverse émerge dans l'espace public médiatique, celle des prières de rue, eh bien ça fait 20 ans qu'il y a des prières qui sont faites dans l'espace public et dans les rues qui sont la rue Mira et la rue Polonceau du 18e arrondissement. Pour Paris, exactement.
Oui, parce qu'il y a 3 autres villes.
Tout à fait. Marseille, Nice, où il y a également des prières qui sont faites sur la voie publique. Alors, il faut savoir que finalement, les autorités publiques, elles sont très pragmatiques. C'est des prières qui ont lieu au moment de la mosquée, de la prière du vendredi, qui est la prière la plus importante dans le culte religieux musulman, et qui se déroule en général entre midi et 14h. Et puis, les pouvoirs publics se sont aperçus qu'il y avait, et ça, c'est quelque chose, j'allais dire, sur lesquels même les détracteurs de l'islam se mettent d'accord, il y a un manque d'espace, en tout cas à l'époque, il y a un diagnostic qui est, il y a un manque de surface de prière, il y a un manque de mosquées. Alors, bien sûr, la France rattrape un peu son retard en matière de lieux de culte, mais à ce moment-là, en particulier dans le 18e arrondissement de Paris, qui concentre la majorité des musulmans de l'Île-de-France, en fait, c'est le 18e arrondissement, et puis tout au-dessus, tout ce qui est banlieue parisienne, Seine-Saint-Denis, il y a énormément de personnes de confession musulmane qui, du coup, se mobilisaient et y allaient prier le vendredi à la mosquée de la rue Mira, notamment. Et donc, à ce moment-là, en l'absence de place, eh bien, les rues étaient barrées, il y avait des prières qui se faisaient dans l'espace public. C'est très intéressant de voir que, et c'est pour ça que je parlais de construction sociale d'un problème. C'est-à-dire que pendant 20 ans, ces prières, elles ont été faites dans ce quartier, et vous le disiez très bien, et d'ailleurs, il n'y a pas que vous qui le dites, il y a aussi un élu de la mairie du 18e arrondissement de Paris qui me disait que lui, à l'époque, il recevait finalement très peu de courriers de la part des riverains, des habitants du 18e arrondissement de Paris, qui savaient que le dérangement, et c'est vrai, c'était un véritable dérangement, des rues qui sont barrées, une circulation qui est interrompue, eh bien ça allait durer.
Et les mamans qui ne pouvaient pas passer
avec leurs poussettes. Mais souvent, il y avait quand même une coopération des prieurs eux-mêmes qui était, bon, allez, on se pousse un peu, on va aider la maman à porter son landau. Donc voilà, quand même, il y avait une gêne qui était occasionnée, mais pour les autorités publiques comme les riverains, c'était somme toute relatif. Et puis, il y avait une forme aussi, j'allais dire, de sous-traitance comme ça du pouvoir de police, toute proportion gardée, dans le sens où les responsables de mosquées se voyaient confier des barrières, se voyaient confier aussi des éléments pour réguler et faire en sorte que ça se passe du mieux possible. Alors, d'un côté, on a ceux qui considèrent que c'est un acte de provocation. Marine Le Pen le dira sur plateau d'À vous de juger, d'ailleurs en décembre 2010, elle dira que c'est une occupation du territoire.
Sans blindés, sans armes.
Et sans charme, et une occupation. L'occupation, tout de même, dira-t-elle. Et c'est très intéressant de voir le vocabulaire qu'elle emploie, puisque l'occupation, ça renvoie, c'est un vocabulaire qui est très chargé symboliquement, à la Seconde Guerre mondiale, à la résistance aussi au nazisme et au Troisième Reich. Et donc, comme ça, on a un parallèle qui est fait entre une prière dans l'espace public à un moment donné et une occupation qui serait volontaire, qui serait dans la provocation, presque une annexion du territoire français. On a tous les éléments explosifs pour faire une controverse, et d'ailleurs, c'est pour ça qu'elle aura lieu.
Oui, parce que cette prière, elle n'est pas qu'à un moment donné, elle est récurrente, elle revient dans le temps, elle est hebdomadaire. Je vous pose la question parce que c'est vous qui étiez enquêtrice. Est-ce qu'il y a eu à un moment donné ou pas une autorisation des autorités préfectorales? ou est-ce que on les a mis un peu devant le fait accompli? Moi, je suis surpris d'apprendre que ça avait lieu depuis 20 ans, que le courrier que recevait l'arrondissement de Paris, le 18e en l'occurrence, ne venait pas des riverains eux-mêmes, mais venait d'un peu partout par la suite. Et j'ai lu dans votre article, fort éclairant d'ailleurs, dans Confluence Méditerranée, que il y a ce que vous appelez les trois étapes en trois P, la problématisation, la publicisation et puis la politisation de ce que vous avez appelé donc une construction d'un problème qui n'existait pas. La problématisation, c'est que pendant 20 ans, on n'a rien dit, puis on s'en est emparé. Mais si on n'a rien dit pendant 20 ans, ça ne veut pas dire que l'effet provocation devait s'estomper. C'est la force est à la loi. S'il y a une infraction à la loi, ben en République, l'autorité revient à la loi. La force est à la loi, sinon c'est la loi de la force, et puis ça serait la jungle, et ne nous voudrons pas ça.
Ce que vous venez de dire, moi ça fait partie des choses qui m'ont beaucoup intéressée dans ce terrain de recherche, c'est la question de la construction de l'urgence. C'est-à-dire qu'on a des prières qui se font depuis 20 ans dans un arrondissement donné, le vendredi, entre midi et 2h. Et puis d'un seul coup, en 2010, on a Marine Le Pen sur un plateau qui parle d'occupation, puis ensuite c'est monté en épingle, ça va jusqu'au ministre de l'Intérieur, Claude Guéant, à l'époque. D'ailleurs, lui, il en fait même un marqueur civilisationnel. Il ira jusqu'à dire, si je me trompe pas, c'était en février 2011, que toutes les civilisations ne se valent pas, et il donne deux exemples, la question des prières de rue et la question du niqab. Ce qui est intéressant, c'est que dans les deux cas, il s'agit de la visibilité d'une pratique religieuse dans l'espace public. Et il en fait comme ça le baromètre civilisationnel en disant, regardez, c'est la preuve qu'il y a un problème avec l'islam, avec même la civilisation islamique entendue dans le sens large. Moi, je pense que les autorités...
Il avait rajouté à ce moment-là aussi l'égalité homme-femme et certains autres marqueur, comme vous dites.
J'espère que d'ailleurs on aura l'occasion d'y revenir quand on parlera de la question de la burqa et du niqab et de toute la construction comme ça de la démocratie
sexuelle.
Qui sont
toujours perçus comme des éléments de provocation pour l'ensemble de la nation.
Mmh. Mais ce qui est intéressant ici, c'est aussi de voir que finalement, tout acte de visibilité religieuse dans l'espace public, dès lors que ça vient de personnes de confession musulmane, est considéré comme un acte de provocation.
Oui, alors, vous aurez à développer tout ça. Le contre-argument, c'est que, un, si on n'a pas de mosquée, ben on reste chez soi, on prie chez soi. C'est pas une obligation absolue d'occuper l'espace public indûment, ou du moins sans autorisation, puisque par la suite, quand la polémique a enflé, on a trouvé des gymnases, des casernes, etc. Deuxième chose, il incombe aux dignitaires ou aux responsables religieux de trouver des solutions. Moi, j'étais frappé à ce moment-là d'entendre parler de deux services. C'est comme si, pour une mosquée qui n'arrivait pas à avoir suffisamment de place, on a un premier service et puis un second. Est-ce que la liturgie s'accommode ou s'apprête à des services? Alors, vos interlocuteurs, puisque vous en avez interrogé un certain nombre, que vous ont-ils répondu?
Alors, ce qui est intéressant, c'est que les autorités religieuses du 18e, bon, je parle bien sûr surtout des imams et des responsables associatifs de ce quartier de la Goutte d'Or dans les 8e arrondissement de Paris, ils étaient finalement assez ravis de la controverse autour des prières de rue et de la sortie comme ça médiatique de Marine Le Pen. Pourquoi ? Parce qu'ils ont dit, grâce à elle, les autorités publiques, les autorités politiques se sont décidées à nous allouer des locaux pour que nous puissions prier dignement. Il faut savoir que, et à mon sens, hein, enfin, en tout cas pour les musulmans que j'ai pu interroger, qui ont été parfois amenés à prier sur des trottoirs ou sur des routes, c'est pas du tout le contexte idéal de prière. Il y a comme ça dans les rites musulmans l'idée que la prière elle doit être faite dans un état de purification, de pureté. On fait des ablutions, on se nettoie. Toi, on se lave. Et là, on est finalement obligé de prier entre le caniveau et une crotte de chien. J'ai envie de dire, il y a finalement assez peu de Français de confession musulmane à l'époque à qui ça convenait. Et on se retrouve dans une situation d'extrême tension aussi, c'est-à-dire d'extrême tension au niveau de l'immobilier et donc de la possibilité d'acheter des locaux, déjà parce que c'est très cher et que pour un certain nombre d'associations musulmanes, elles n'ont pas les moyens de les acheter. Et puis, les autorités religieuses, dans un sens très pragmatique, ont mis en place les baux emphytéotiques et donc le fait de pouvoir, avec des loyers extrêmement modérés, finalement prêter des locaux publics à des associations religieuses. Mais il y a aussi un autre élément qui est la question politique. C'est-à-dire qu'on va avoir un certain nombre de municipalités qui vont systématiquement utiliser un droit qui s'appelle le droit de préemption pour avoir finalement la priorité lorsqu'il s'agit d'acheter un terrain. Et bizarrement, un certain nombre de municipalités achètent surtout les terrains lorsque ceux-ci sont, j'allais dire, convoités par des responsables religieux qui aimeraient en faire des mosquées. Donc, je pense qu'il y a à un moment donné une certaine cohérence à avoir. On peut pas, j'allais dire, à juste titre, finalement, être chagriné et choqué de voir que des prières se font dans l'espace public et en même temps refuser que des lieux de culte émergent. Ça semble assez difficilement conciliable. En ce qui concerne les autorités religieuses, il y a la position dont vous parliez des deux services. C'est Tarek Obrou qui l'avait proposé en disant, bon, finalement, si les Français de confession musulmane veulent vraiment aller prier à la mosquée, et s'il n'y a pas assez de place, ce qu'on peut faire, c'est qu'il y ait deux offices. Alors, vous le disiez très bien, hein, il y a beaucoup de personnes qui ne sont pas du tout accommodées de ce genre d'accommodement, et ça s'entend ou pas, j'allais dire, chacun a sa propre interprétation du culte musulman. Mais quand bien même les deux offices, à mon sens, ne régleraient pas d'autres problèmes de fond, qui est la question de l'espace à la fois symbolique et à la fois, j'allais dire, matériel, occupé par les musulmans de France. Alors, occupé, je vais peut-être retirer ce mot parce que c'est quand même un mot connoté, mais en tout cas, que prennent les musulmans de France.
وقفت وسط الغرفة أفتش عن جعبي أتفقد المنفضة اللمبة الخسارة الربح الباب التصاوير فصغرت في نظري حتى صبرت طويلا أمام المرآة لأرى وجهي فتصفحت الهواء العابق بالدخان والسعال وكدت أمجه وأنساه وضأمت حتى صبرت كثيرا أمام الباب لأدخل ثم لأخرج ثم لأتمدد بلا صوت على السرير.
Nous sommes sur France Culture dans l'émission Questions d'Islam. Aujourd'hui, on parle effectivement de la visibilité dérangeante pour certains de la pratique cultuelle. Ou ce qui s'apparente à cela, parce que nous passons cette fois-ci, après avoir parlé des prières de rue, perçues toujours comme une provocation, à autre chose et qui ne relève pas, je vous le dirai à vous, Fatima Kemilat, qui est chercheuse et qui vous intéressait à ça, à la burqa. La burqa n'ayant aucun fondement scripturaire, aucun fondement théologique, comment se fait-il que ça a surgi comme ça, ça a choqué plus d'un, ça a fait enfler toute une polémique et on était contraint de légiférer. À mon sens, je le dis simplement comme citoyen, il suffisait de dire que la République doit se vivre à visage découvert et qu'en dehors des temps de carnaval qui sont circonscrits dans le temps et même dans l'espace, la vie des citoyens, hommes et femmes, se fait à visage découvert.
Ce qui est intéressant, c'est les termes du débat. Burqa. Alors, c'est quand même un terme qui, à la base, d'un seul coup, en 2010-2011, est apparu quand ce qu'on appelle le bruit médiatique, c'est-à-dire quand on fait une analyse comme ça, systémique, des mots qui sont employés dans la presse française et aussi dans l'audiovisuel français, et on s'aperçoit que le mot burqa, d'un seul coup, devenait un mot même qui a été consacré par l'Académie française et qui rentrait dans le dictionnaire français. C'est un terme afghan qui, à la base, oui, qualifie une tenue, alors, traditionnelle. Bon, il y a toute la question de l'invention de la tradition, mais tout de même, une tenue qui se portait depuis 20 à 30 longtemps en Afghanistan, qui est cette grande tenue bleue qui camoufle l'intégralité du corps des femmes.
Grillagée
au niveau des yeux, de manière à ce qu'on ne puisse pas non plus finalement deviner le regard. Alors en France, moi personnellement, j'en ai jamais vu des femmes qui portaient la burqa bleue grillagée. Ce qu'on voit.
Pardon Fatima, je veux pas vous interrompre, mais burqa vient étymologiquement du burqa, qui est une sorte de masque qu'on mettait comme ça sur le nez, enfin sur le visage, et qui laissait apparaître les yeux. Et c'est un peu comme les dresseurs de faucons devaient en mettre pour ne pas être blessés au moment où ils domptaient les faucons pour la chasse. C'est simplement une des étymologies possibles du mot, et puis ça va être ça va intéresser davantage les femmes afghanes, mais pas uniquement.
Khaled Bechir, le puits de science sur France Culture. C'est très bien, je ne connaissais pas cette étymologie-là. Mais ce que je trouve intéressant, c'est justement le choix des mots. En France, qu'on voit comme vêtements, c'est surtout, à l'époque et encore aujourd'hui, le sitar et le niqab. Donc, des fois, il y a les yeux qui sont apparents, des fois, ils ne le sont pas. Il y a une espèce de voile qui recouvre, c'est même pas agréable, c'est un voile fin qui recouvre les yeux pour qu'on ne laisse pas deviner le regard. Et ça, c'est le sitar. Donc ça, c'est ce qui se voit à l'époque. Au moment où la polémique émerge, d'ailleurs c'est intéressant parce qu'elle est finalement assez concordante du moment des prières de rue. Et ce parallèle fait par Claude Guéant entre les prières de rue et le port du niqab, il n'est pas innocent. C'est toujours la question de la visibilité finalement des pratiques religieuses dans l'espace public. Vous disiez tout à l'heure que c'était pas un élément qui était inscrit dans le Coran ou même dans la tradition musulmane. Alors moi, je suis pas exégète du Coran et je pense que les autorités politiques non plus. C'est pas les grands imams de France, le président n'est pas le grand imam de France, et il me semble qu'il est assez, j'allais dire, dangereux de se prononcer sur des formes d'interprétation religieuse lorsqu'on est une autorité publique et lorsqu'on est une autorité politique.
C'est pas le rôle de l'autorité politique, mais c'est le rôle de l'autorité religieuse.
Tout à fait.
On n'a qu'à voir le pèlerinage à la Kaaba, cette demeure considérée comme la demeure de Dieu pour les croyants musulmans à la Mecque. Les hommes et les femmes, au moment de leur grande ferveur spirituelle, s'y retrouvent à visage découvert. Comment voulez-vous qu'à la Mecque et à la Kaaba, les hommes et les femmes, au moment du pèlerinage, sont à visage découvert, tenus de l'être? C'est-à-dire qu'on ne peut pas y aller prier et accomplir le pèlerinage avec le visage découvert, et qu'à Paris, à l'Opéra ou ailleurs, on vient et on se dissimule le visage. C'est pour ça que je vous dis que, un, c'est perçu et c'est une provocation. De la frilosité, la lâcheté même des hiérarques musulmans a fait en sorte que le débat enflait. Et puis, du point de vue de votre position de sociologue et de chercheuse en sciences politiques, il n'incombe pas aux autorités politiques de s'immiscer dans l'interprétation. Ça, c'est vrai. Mais à un moment donné, quand il y a psychologiquement aussi une sorte d'altération de la sérénité globale, si je puis dire, eh bien, le problème devient à la fois, pour en prendre vos 3 P, problématisé, publicisé, donc médiatisé, et puis politisé, donc il incombe à la parti politique de trouver une solution.
Mon cher Khaled, si la France est perturbée par, allez, 400, on va dire, 2000 au maximum, femmes qui se couvrent le visage, si la sérénité globale, je reprends vos termes, de la France tout entière repose sur quelques femmes qui se voilent le visage, alors il y a des questions à se poser. Est-ce qu'au niveau des interprétations et de leur propre rapport au texte, il y a des questions à se poser? Moi, j'entends que vous êtes complètement dans votre rôle d'intellectuel musulman lorsque vous dites, voilà, eh bien, on a des sources, on a des éléments qui prouvent que visiblement ce n'est pas la lecture, j'allais dire, légitimée dans le temps de l'islam.
Ici, ce n'est pas l'intellectuel musulman qui parle, c'est tout simplement le médiateur entre vous et les auditeurs qui nous font l'amitié de suivre l'émission, d'une part, et d'autre part, même si c'est groupusculaire, ultra-minoritaire, epsilonesque, on dit souvent que l'histoire est faite par les groupes minoritaires.
Mmh. Alors, moi, j'ai eu l'occasion quand même. Alors, Il y a quelqu'un qui travaille sur cette question depuis longtemps. C'est une sociologue, Agnès Defeo. D'ailleurs, elle vient tout juste de soutenir sa thèse et qui, elle, a interrogé une trentaine de femmes qui portent le niqab. Moi, j'ai pas eu l'occasion d'en interroger une trentaine. Quelques-unes que j'ai pu rencontrer au moment de mon terrain. Qu'est-ce qu'elles me disent? Elles me disent, la France, c'est devenu pour moi une prison à ciel ouvert. Elles me disent, alors ce qui est quand même intéressant, c'est-à-dire qu'au nom de leur libération, on leur interdit d'une certaine manière l'accès à l'espace public. Et ça a des effets contre-productifs. Et ces effets, si on souhaite les libérer, même si je pense que c'est très très dangereux lorsqu'on veut libérer les gens contre eux-mêmes, contre leur gré, si on souhaite libérer ces femmes qui portent le niqab, eh bien leur interdire l'accès à l'espace public, l'accès finalement à un espace où elles pourraient rencontrer des gens qui ont des opinions complètement différentes, où elles pourraient peut-être discuter aussi sur leur position et puis plus simplement vivre leur vie. Et si, d'ailleurs très souvent, c'est ce que montre Agnès Defeo, le port du voile intégral est temporaire. Ça fait partie d'une espèce de trajectoire, comme ça, de carrière, j'allais dire, musulmane, surtout chez les femmes qui se convertissent. Il y a des moments comme ça où, j'allais dire, elles épousent l'islam comme on rentre dans les ordres, et ça fait partie, comme ça, de leur trajectoire biographique. Donc je pense qu'il est toujours très intéressant d'apporter de la complexité et aussi de la part d'individualité dans ces phénomènes qui vont bien au-delà, quelque part, d'une simple revendication ou d'une simple provocation. Vous parlez de troubles à l'ordre public. Ce qui est intéressant aussi, c'est de voir qu'à partir du moment où la loi elle a été adoptée fin 2010 et puis mise en application avec la circulaire en 2011, eh bien c'est qu'il y a eu plus de troubles à l'ordre public causés parce que des femmes ont été contrôlées, par exemple à Trappe ou à Argenteuil, et que ça avait fait scandale, en particulier à un moment où c'était le Ramadan, où il y avait eu un contact physique entre les policiers et une des femmes qui portait le niqab. Donc plus de troubles à l'ordre public dus comme ça à cette application de cette loi de non-dissimulation du visage dans l'espace public que ces femmes elles-mêmes dans l'espace public. Ce qui est aussi intéressant, c'est que la provocation, elle peut se faire dans les deux sens. Si vous m'interdisez quelque chose, il y a de très grandes probabilités pour que j'aie une envie irrépressible de me mettre à le faire.
Oui, j'entends bien, je vous écoute, etc. Ce sont des trajectoires de femmes dont il faudrait tenir compte aussi de la complexité, y compris psychologique. J'ai entendu même que ça les sécurisait. Il n'empêche que c'est aussi une affaire de dignité humaine, que c'est une affaire aussi de respect de la dignité humaine dans sa composante féminine, le fait de dissimuler le visage. Mais indépendamment de ça, imaginez-vous si nous rencontrions quelques jeunes gens, hommes et femmes d'ailleurs, avec le casque intégral et qui se baladent avec. Ils peuvent dire toujours que c'est leur liberté. Mais il y aurait une atteinte à... Peut-être pas à l'ordre public tel que nous le comprenons, mais nous ne saurons plus à qui nous avons affaire. Et j'ajoute, c'est peut-être la liberté individuelle, mais la liberté individuelle qui la se dédouble d'un autre problème, c'est qu'elle se prévaut indûment d'une pratique religieuse, ou du moins d'une pratique religieuse dévoyée ou poussée à l'extrême, et qui, encore une fois, n'a pas de fondement théologique scripturaire.
Alors, toutes vos interventions me donnent tellement à dire et m'inspirent tellement. Et vous faites bien de parler de la question de la dignité humaine. Puisque, et finalement, cette notion de dignité humaine, elle n'est pas du tout incompatible avec l'idée d'ordre public. Au contraire, c'est même un des fondements de l'ordre public. En droit français, l'ordre public, c'est la salubrité, c'est la tranquillité et c'est la question de la sécurité. Et la question s'est posée de savoir si finalement les femmes qui se couvrent intégralement le visage porter atteinte ou présenter un risque à la sécurité des Français et des Françaises. Le Conseil d'État a statué à l'époque, il a donné un avis, donc c'était pas quelque chose de liant, et il a dit la chose suivante. On ne peut pas interdire quelque chose dans une logique artificiellement préventive. S'il n'y a pas un risque grave, avéré, constaté que les femmes qui portent le niqab présentent un risque pour l'ordre public, on ne peut pas interdire une dissimulation du visage dans l'espace public. Et c'est à ce moment-là que s'est posée la question de dire, bon, si on ne peut pas finalement interdire le port du niqab pour des raisons liées à l'ordre public stricto sensu, qu'est-ce qu'on peut faire? Et là, il y a une autre dimension de l'ordre public qui a été apportée, ou j'allais dire qui a été mise en avant par un certain nombre de juristes, qui est celle de l'ordre public immatériel, ou l'ordre public dans sa dimension morale sociale. Dans cette dimension morale sociale, on retrouve l'idée de dignité humaine. Il y a cet arrêt qui est très intéressant, qui est l'arrêt Morzan-sur-Orge. L'arrêt Morzan-sur-Orge, il est aussi connu comme étant l'arrêt des lancers de nains. Parce qu'à l'époque, se posait la question de savoir, est-ce qu'on peut autoriser ou pas des personnes de petite taille à être lancées, comme ça il y avait des concours, hein, ça existe vraiment, à être lancées si ces personnes le veulent. Et là, l'État français a statué en disant non, c'est impossible parce que ça porte atteinte à la dignité humaine et qu'on ne peut accepter de porter atteinte à la dignité humaine. Mais il faut savoir que même dans ce cas-là, ça a été adossé à la question de la sécurité pour lui donner, j'allais dire, un fondement en dur. La question de la dignité humaine, elle a aussi été abordée par la Cour européenne des droits de l'homme, par la Cour de justice européenne et par la Cour de droit et la question de la juridiction des droits de l'homme en Union européenne. Et qu'est-ce qu'elle dit ? Elle dit on ne peut pas opposer à autrui la dignité. À partir de quel moment je considère que ce que vous faites n'est pas digne pour vous ? Et à partir de quel moment je peux, moi, en tant qu'État, qu'autorité politique et publique, m'autoriser à édicter la vie bonne au sens où John Rawls l'entendait dans son livre « La justice comme équité ». Parce que je pense qu'il y a quelque chose d'assez dangereux là-dedans, de dire « je sais mieux que vous ce qui est bien pour vous ». Même si j'en suis intimement persuadée, je pense que ça peut être une pente savonneuse dans les systèmes démocratiques dans lesquels nous vivons aujourd'hui.
Fatima Kemilat. C'est la première fois peut-être dans cette émission que j'interviens aussi longuement.
C'est tout pour mon plaisir, ne vous inquiétez pas.
Je ne suis pas un homme inquiet. On ne peut pas faire le bonheur d'autrui malgré lui, c'est clair. J'ai appris de la bouche d'un avocat qui n'est plus de ce monde que le bon sens et le droit par moment ne se coïncident pas. Il n'empêche, encore une fois, que cette affaire de couvrir le visage a aussi des impératifs de sécurité. C'est un truisme que de le répéter. Récemment, un braqueur connu, ennemi public numéro un, se baladait ou a eu l'occasion de se pavaner dans la cité en portant la burqa, ce qu'on appelle la burqa ou le voile intégral. Et il y a eu aussi ces impératifs de sécurité qui sont là indépendamment de cette idée que nous nous faisons de l'infériorisation de l'être humain féminin dissimulée totalement. Dernier argument, qu'est-ce que c'est que cette affaire de considérer que le corps féminin est un corps érotisé au point où c'est une tentation pour les hommes, et il faut dissimuler ce corps féminin du regard des hommes. C'est une affaire d'éducation, c'est aussi au cœur du projet démocratique, et c'est un enjeu de civilisation. Je mets de côté les questions de Claude Guéant. Je le crois fondamentalement. Alors, qu'est-ce que vous aurez à répondre à tout ça?
C'est intéressant parce que je ne veux surtout pas donner l'impression que je suis une apôtre de...
Non, c'est le regard de la chercheuse.
Exactement.
Et c'est parce qu'il y a des méandres juridiques, parce que il y a toujours de la passion quand on traite ces débats-là, que j'ai pris sur moi de faire appel à vous. Vous qui êtes à la fois enquêtrice sur le terrain et vous voulez avoir ce regard de la sociologue et de la chercheuse en sciences politiques.
Absolument. Et c'est la chercheuse en sciences politiques et la juriste qui vous dit qu'à l'époque, en 2010, quand on décide d'adopter cette loi d'interdiction de dissimulation du visage dans l'espace public, il y a déjà un espèce d'arsenal juridique mis en place en ce qui concerne les questions sécuritaires. Et c'est pas moi qui le dis, c'est les sages du Conseil d'État. Alors généralement, on dit sage pour le Conseil constitutionnel, mais on va l'utiliser pour le Conseil d'État, qui disent la chose suivante. Ils disent il y a déjà une pléthore de lois qui font en sorte que, par exemple, lorsqu'on rentre dans une poste, lorsqu'on rentre dans un établissement en public et qu'on a besoin d'une reconnaissance, il faut se découvrir. Il y a aussi d'autres juridictions qui sont venues après, justement après des désordres à l'ordre public occasionnés lors de manifestations où des manifestants portaient des casques, où on se dit, bon bah là, il va peut-être falloir quelque chose pour être sûr que les personnes qui causent du désordre, eh bien, soient directement reconnaissables. Donc, la question de la sécurité finalement, elle avait déjà été abordée à ce moment-là. Et puis la loi 2010, elle posait aussi un certain nombre de problèmes en matière juridique, qui est de dire bon, alors là, si une personne se dissimule le visage pour des raisons religieuses, pour des raisons liées à son idéologie, oui, et si une personne se dissimule le visage cette fois-ci pour des raisons de santé, comment on va distinguer les deux? Parce qu'il y a des personnes qui vont porter des masques, on voit souvent des personnes, des touristes artistes qui ont des petits masques anti-pollution sur leur visage, même si on devine leurs yeux. Et c'est là où la juriste que je suis, elle allait dire, allume une autre lumière et un autre warning en disant, bon, qu'est-ce qui va faire la différence entre les deux ? C'est la question de l'intention. Et c'est là où c'est une pente particulièrement savonneuse. C'est si la différence entre une personne qui se dissimule volontairement le visage pour des raisons religieuses et une personne pour des raisons, j'allais dire, vous parliez de carnaval tout à l'heure, voilà, moi demain je vais mettre un masque, je veux sortir avec mon masque sur le visage. Si la différence c'est l'intention que je mets, alors là l'État et les autorités juridiques sont placés dans une position qui vise à ouvrir les poitrines des gens et à décider quelle est l'intention qu'ils ont au moment où ils revêtissent un vêtement. C'est particulièrement dangereux en matière d'insécurité juridique. Encore une fois, à une époque où existait déjà un ensemble d'arsenal.
Selon vous, donc Fatima, Kaymilat, il fallait simplement appliquer la loi existante et qu'on n'aurait pas dû surréagir en légiférant d'une manière circonstancielle.
C'est là où la question de la problématisation est d'autant plus intéressante. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de problème public par nature. C'est-à-dire qu'à ce moment-là, voilà, on parle de 2000 femmes tout au plus qui portent le niqab. On peut s'en inquiéter. On peut, en tant qu'autorité publique, lancer le débat. Mais il ne me semble pas que dans la hiérarchie des enjeux majeurs qui concernent la population française à ce moment-là, ce soit un top of the pop. C'est pas ce qui se passe à ce moment-là. Donc il y a une construction politique de l'urgence. Il y a une construction politique du problème. Après, on en discute. Allons-y, discutons-en. Mais cette inflation législative, elle est aussi problématique. Et elle pose aussi la question de l'enjeu politique dissimulé derrière cette loi. Et l'enjeu politique, c'est quoi ? C'est de dire, nous, en tant qu'autorité publique et politique, on a une main mise sur le terrain et on va vous montrer, on va un peu rouler des mécaniques, on va vous montrer notre capacité d'agir en se sentant concerné par le sort de ces 2000 femmes qui se couvrent le visage dans l'espace public.
Ben, il se trouve, chère Fatima Kaymilat, qu'on a mis fin à cette inflation parce qu'à un moment donné, il y avait comme un effet de mode. Et puis maintenant, c'est tari ou c'est en voie d'être tari en tout cas. Il y a peut-être celles qui renâclent encore à payer leur amende. Mais je n'en vois pas, moi, dans les rues, des femmes... bourquisée, je ne sais plus si le vocabulaire maintenant admet le mot, en tout cas voilée intégralement.
أفكر أبدا بوطن سحري لا أعرفه.
Nous sommes sur France Culture dans l'émission Questions d'Islam avec la chercheuse et sociologue, juriste aussi, professeure à l'université Paris-Est Créteil. Et votre domaine de prédilection, ce sont les sciences politiques, mais vous vous intéressez aussi aux représentations du culte islamique dans notre pays et les politiques publiques qui visent le fait religieux islamique en France. Dernière partie, pour rester toujours dans ce registre des provocations en général, et qui sont le fait de quelques minorités, mais j'insiste sur le fait que l'histoire commence surtout par le comportement déviant des minoritaires. C'est cette affaire du burkini. C'est curieux, il y a la même racine que burqa. Surtout, ce qui a été perçu, encore une fois, d'une manière psychologique, c'est que sur les plages de Nice, quelques jours après l'attentat odieux de la promenade des Anglais, on trouve quelques-unes, telle ou telle femme se disant musulmane, couvrant entièrement son corps, allant se baigner à la plage. Et j'ajoute ce point, et comme ça vous aurez le temps de répondre, ce que les salafistes n'aimaient pas ce burkini. Nos auditeurs ne le savent pas, parce que ils tout de même laisse les formes du dit corps. Donc on se retrouve dans une situation paradoxale. Les fondamentalistes et salafistes réprouvent cet accoutrement et d'un autre côté, c'est perçu aussi comme une provocation. Voilà. Qu'est-ce que vous dites à propos de la psychologie de celle qui le porte ou voulait le porter?
Alors moi j'ai peut-être davantage à dire sur la psychologie de ceux qui s'offusquent que des femmes puissent couvrir leur corps en allant à la plage que de celles qui finalement décident de couvrir leur corps pour aller à la plage. Et là c'est la féministe qui va s'exprimer. Avant que la féministe s'exprime, on va revenir sur la question de la définition du mot burkini. Alors il faut savoir qu'à la base c'est pas du tout un terme salafi ou qui vient de l'Arabie Saoudite ou je ne sais pas de quelle plaine on puisse imaginer. Burkini c'est l'invention d'un néologisme créé par une styliste australienne qui a designé comme ça, des formes de maillots de bain finalement de la même texture que les combinaisons de plongée. Pour dire, bien quand on est une femme musulmane, quand on est une femme, d'ailleurs pas que musulmane, parce qu'elle avait beaucoup de clientes juives orthodoxes aussi, et on pourrait voir aussi la même chose chez certaines branches du protestantisme, eh bien, qui décident finalement ces femmes de se couvrir et qui sont très pudiques et qui en font une éthique de vie, eh bien de pouvoir quand même aller à la plage. Donc elle dessine des choses qui sont très fashion. À ce moment-là, elle a pas l'intention, j'allais dire, de révolutionner ou d'être iconoclaste. Elle a un produit à vendre. Et ce produit à vendre, en l'occurrence, eh bien c'est un maillot spécifique. Et vous le disiez très bien, c'est pas du tout la vision des salafis. Les salafis, une femme sur la plage, qu'elle ait un burkini ou qu'elle ait une toile de tente sur elle, ça n'a aucune différence, puisque l'idée c'est de dire qu'elle ne devrait même pas, pour certaines, être dans l'espace public. Donc les plus orthodoxes ne sont pas du tout dans la lecture du burkini. Moi je pense au contraire que c'est une forme d'accommodement, ce que Nilufar Gueuleh appelle interpénétration. Il y a différents registres discursifs, il y a différents registres normatifs à ce moment-là qui s'embrassent, qui font corps. D'ailleurs, burkini, c'est une contraction entre bikini et burqa. Je trouve que c'est un très bon terme. Et c'est finalement comme ça des univers de sens qui se réconcilient à l'intérieur de corps de femmes, qui du coup essaient de mettre en harmonie différentes croyances et différentes cultures auxquelles elles se sentent appartenir. Et ce qui se passe, c'est que le terme provocation, il est extrêmement intéressant. C'est que être elle-même, trouver ses accommodements, est perçu par un certain nombre de personnes, dans l'espace public, comme étant une forme de provocation, en particulier dans le contexte post-attentat. Et c'est pour ça que j'ai dit que j'ai davantage à dire sur la psychologie de ces gens. Quel est le lien entre, d'ailleurs, à ce moment-là, moi je me souviens, j'étais invitée à l'Université de Californie à Berkeley comme chercheuse, et tous mes collègues étaient abasourdis de voir cette scène où on voit une femme qui porte un foulard. C'est même pas un burkini à proprement parler, c'est-à-dire c'est une combinaison qu'elle aurait achetée sur le site de cette femme australienne. C'est une femme qui porte un foulard, qui est sur la plage, hein, comme diraient les anglo-saxons, enjoying herself, en train de profiter, et qui a des policiers qui viennent et qui la somme de se découvrir. Ça les a profondément choqué, le milieu anglo-saxon. Alors on peut ne pas être d'accord, hein, puisque la vision anglo-saxonne n'est pas la même que la vision française. Mais même une amie à moi taïwanaise m'avait envoyé une capture d'écran pour dire « Mon Dieu, mais la France est tournée en dérision par un certain nombre d'acteurs à l'étranger qui ne comprennent pas sa posture. » D'ailleurs, plus récemment, là, en août 2018, bien sûr, on peut pas parler vraiment de condamnation dans le sens où c'était simplement un avis, mais le Comité des droits de l'homme des Nations Unies a aussi condamné la France pour une autre affaire, en l'occurrence l'affaire Babylou, et qui concernait aussi la question du voile d'une employée. Donc il y a comme ça des choses, il y a des proportions à garder, que l'on puisse être choqué, abasourdi, que l'on puisse être traumatisé par les attentats de Nice. Moi, je suis originaire de la région de Nice. Vous dire qu'on se promenait pas de la même manière sur la promenade des Anglais. Mais il faut aussi se rappeler que la première victime de cet attentat odieux était elle-même une femme musulmane qui avait 7 enfants et qui portait le foulard. Donc la question se pose de qui sont les ennemis de la République?
Oui, Fatima Kemilat, là encore une fois, ce n'est pas que du droit pur. Et puis c'est vrai qu'au niveau des Nations Unies, il y a cette exacerbation du droit individuel ou des libertés fondamentales individuelles, mais il se trouve aussi que les nations peuvent se doter de droits pour des libertés collectives. C'est ce que Tariq Oubrou, puisque vous l'avez cité, à propos des deux services, c'était aussi à l'époque le président du CFCM d'alors Mohamed Moussaoui qui avait parlé des deux services pour les prières de rue. Mais là, c'est cette affaire, disons, de discrétion, le mot a fait polémique. Il se trouve que sur une plage, il y a des codes, une norme implicite, non écrite, qui est, bon, on se découvre, pudeur ou pas pudeur, et on y va à la plage. C'est un contexte particulier. Y aller dans un contexte particulier, suite effectivement à des attentats odieux, le bon sens aurait requis à ce moment-là de ne pas être dans cette forme, c'est peut-être la quatrième ou cinquième fois que j'utilise le terme dans cette émission, de provocation. Donc c'est une affaire à la fois d'éthique, de psychologie, de responsabilité, notamment des responsables musulmans. C'est ma question en cette fin d'émission à vous qui essayez d'aborder, non sans raison, les choses du regard de la sociologue, du juriste et de la versée en sciences politiques.
Moi, je suis très triste de voir que l'heure passe si vite et que notre discussion prend bientôt fin. Mais vous le disiez bien, sur la question de la discrétion, ça avait été sujet à polémique au moment où Jean-Pierre Chevènement l'avait utilisé. Il faut savoir que le terme discrétion...
Reprenant lui-même le
terme de Tariq Oubrou. Et en fait, la discrétion ne peut se comprendre que si on le met au regard d'un autre terme, qui est la question de l'ostentation. Et c'est depuis 1994, dans la circulaire Beyrou, qui portait d'ailleurs, qui était relative à la question de peut-on ou pas porter le foulard dans les écoles publiques. C'était avant l'adoption de la loi de 2004. Et là, la question, c'est de dire, mais qu'est-ce qui est finalement ostentatoire? Dans l'ostentation, il y a un caractère arbitraire, il y a un caractère subjectif. À quel moment, moi, qui ai un regard extérieur, je décide quand l'autre est ostentatoire, quand l'autre est en train d'avoir un acte de provocation? Est-ce que quelque chose qui froisse ma sensibilité, est-ce que c'est suffisant pour que je vienne comme ça circonscrire la liberté individuelle, notamment la liberté religieuse d'un certain nombre de mes co-citoyens? Et vous le disiez, il y a des choses qui sont attendues. Qu'est-ce qui est attendu sur une plage? Alors, l'injonction au dénudement me fait sourire. Est-ce que je peux me balader sur la plage en étant couverte? Et finalement, si je ne suis pas à l'aise avec mon corps, voilà, je ne suis pas à l'aise avec mon corps, et puis je décide de mettre quelque chose d'extrêmement large parce que j'ai pas envie qu'on le devine. Est-ce que je suis hors la loi pour autant? Il y a une féministe musulmane qui s'appelle Fatema Mernissi, qui malheureusement a trépassé il n'y a pas très très longtemps, qui, dans un ouvrage, parlait du harem taille 38. J'adore cette expression. Harem taille 38, elle disait finalement, si dans certains pays à majorité musulmane, les femmes sont enfermées entre quatre murs, dans les pays occidentaux, les femmes sont enfermées dans leur propre corps et notamment dans les injonctions à la minceur, dans les injonctions à l'hypersexualité. Il faut être épilé, il faut faire du double D, il faut faire du 36, il faut être en maillot lorsqu'on est sur une plage. Et donc, aussi dans des logiques qui sont fondamentalement féministes, se pose la question de jusqu'où va-t-on pousser le contrôle du corps des femmes, le tirer dans un sens en disant il faut absolument le couvrir, cacher ce sein que je ne saurais voir, ou absolument le découvrir en disant non, mais la vraie liberté là, elle se mesure à la taille de la mini-jupe. Je donne d'ailleurs un cours donc demain, lundi, à mes étudiants qui portent sur la question de la démocratie. Et je leur dis, vous savez, c'est extrêmement important de voir comment une démocratie, comment nos structures juridiques, comment nos structures philosophiques tiennent en face des minorités. Et on mesure comme ça, on jauge finalement l'état démocratique d'un pays, d'une nation, en fonction de la manière dont elle traite ses minorités. Et je ne suis pas sûre, et c'est un euphémisme, que adopter des législations qui visent à limiter la visibilité d'une minorité soit la technique, la stratégie la plus adaptée pour accueillir et embrasser cette minorité.
Merci, merci beaucoup Fatima Kemilat. C'était Question d'Islam. Nous avons parlé aujourd'hui de la visibilité de la pratique culturelle islamique par ses excès par moments, par sa construction, par les polémiques qui ont découlé. Chers amis auditeurs, vous retrouverez toutes les références des livres et des musiques sur le site franceculture.fr. L'attaché de production est Daphné Abkral. La prise de son a été assurée aujourd'hui par Stéphane Desmonts et la réalisation est toujours assumée par l'ami Franck Lilin.
يرجى الهوات
You're a gentle.